I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Nous sommes beaucoup à suivre de près le procès des attentats de janvier 2015. Les premières semaines consacrées au rappel des faits et aux parties civiles ont donné lieu à des témoignages souvent bouleversants. Sans prétendre être exhaustif, Code Source vous raconte en deux épisodes, aujourd'hui et demain, le début de ce procès, à travers le regard des trois journalistes du Parisien présents à tour de rôle aux audiences, Louise Colcombé, qui interviendra dans le deuxième épisode, Zoé Lovresse et Timothée Boutry. Le procès des attentats de janvier 2015 s'ouvre le 2 septembre au Palais de Justice de Paris, cet immense bâtiment de verre près du périphérique au nord de la capitale. Timothée Boutry, Zoé Lovresse, décrivez-nous l'atmosphère juste avant l'ouverture du procès.
C'est ultra sécurisé, il y a des forces de l'ordre partout aux abords du tribunal. On doit vider nos sacs, on doit montrer vraiment patte blanche pour pouvoir entrer. Il y a du monde partout, des avocats partout, des journalistes qui font la queue, des parties civiles qui font la queue aussi. On veut accéder aux salles à tout prix.
Il y a aussi une effervescence évidemment médiatique, comme toutes les ouvertures de tous les grands procès, énormément de journalistes. Une tension eu égard aux dispositifs de sécurité et on sait qu'on va vivre un moment historique.
C'est un procès filmé, c'est rare. Pourquoi ce choix ?
C'est pour constituer des archives et pour donner accès à ce matériel aux chercheurs, aux historiens qui vont pouvoir travailler sur ce moment très important de notre histoire judiciaire.
Stéphane Charbonnier dit Charb, Jean Cabu dit Cabu, Georges Wolinski.
Les attentats de janvier 2015 ont fait 17 morts, de nombreux blessés, 12 morts le 7 janvier au total dans l'attaque contre Charlie Hebdo.
Selon un témoin, les tireurs criaient Allah Akbar et affirmaient vouloir venger le prophète.
Le lendemain, la policière municipale Clarissa Jean-Philippe a été tuée à Montrouge.
La France est aujourd'hui devant un choc.
Et le 9 janvier, les clients d'une supérette, l'hypercachère de la porte de Vincennes à Paris, ont été pris en otage.
Je vais vers Johan et je me tourne et je vois le preneur d'otage, Koulibaly, qui est à la caisse.
Quatre d'entre eux ont été tués par le terroriste Amédi Koulibaly. Les frères Kouachi, eux, ont été tués le même jour dans l'imprimerie de Dammartin Angouël en Seine-et-Marne, où ils s'étaient retranchés.
Les deux frères sont tués, l'employé, lui, est sain et sauf.
Timothée Boutry, ceux qui ont commis ces crimes sont morts. De quoi sont soupçonnés, en résumé, les 14 accusés ?
Alors sur les 14 accusés, déjà il y en a 3 qui sont l'objet d'un mandat d'arrêt, 2 qui sont présumés morts. La troisième, c'est Hayat Boumediene, la compagne d'Amédi Koulibaly, dont on a découvert qu'elle n'était finalement pas morte, alors qu'on la pensait décédée. Les 11 autres accusés qui comparaissent, en fait, ils sont soupçonnés à des degrés divers d'avoir participé à la fourniture des armes et du matériel. Et voilà, c'est tout le mécanisme de fourniture des armes qui va être décortiqué au long de ce procès, et dont on va essayer de savoir quel était leur rôle. Et voilà, eux disent, on n'est pas des enfants de cœur, mais on n'avait absolument pas connaissance du projet terroriste d'Amédi Koulibaly.
Les 3 premières semaines du procès vont être consacrées au rappel des faits et au témoignage des parties civiles. Avant cela, il y a l'examen des personnalités des accusés. Timothée Boutry, pendant la première journée, l'une des avocates des accusés se fait remarquer par une défense très offensive.
Il s'agit d'Isabelle Coutemper, qui est l'avocate d'Ali Reza Pola, qui est l'accusée principale. Et elle va dire, voilà, évidemment c'est un drame ce qui s'est passé, mais l'État est responsable, c'est une faillite des services, les autorités sont responsables de ce qui s'est passé. Évidemment, ça crée des remous sur le banc des parties civiles, on dit que c'est indécent, que c'est scandaleux, voilà, donc ça crée un petit incident d'audience, mais Disons que elle a été fidèle à sa réputation et à sa ligne de conduite qu'elle adopte depuis très longtemps. Enfin.
C'est avec un ton ferme que le président de la cour d'assises a rappelé lors du procès l'obligation de porter son masque.
En raison de l'épidémie de coronavirus, tout le monde est masqué ? Ça pose question.
Ça pose surtout question aux avocats de la défense qui disent voilà, vous allez juger des hommes dont vous ne voyez pas le visage. Ça pose problème, ça porte atteinte aux droits de la défense. Tout le monde est masqué et tout le monde parle masqué pendant le procès.
Au troisième jour d'audience, le 4 septembre, le principal accusé, Ali Riza Polat, prend la parole. D'abord, qui est-il ?
C'est un ami d'Amédi Coulibaly. Il a été condamné plusieurs fois, notamment pour des affaires de trafic de stupéfiants. Et il est soupçonné d'avoir eu un rôle déterminant dans l'aide et l'accompagnement d'Amédi Coulibaly avant ses actes. C'est le seul accusé qui est présent au procès, qui est poursuivi pour complicité de tous les crimes. Et à ce titre, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Alors c'est un homme qui est sans filtre, sans retenue. Il balance ses saillies, ses punchlines, il se fait remarquer. Et voilà, mais il dit « je suis là à cause de mytho, je vais vous raconter, je vais dire pourquoi je suis là, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel ». Donc après, le fond de sa défense, c'est de dire « moi, c'était mon ami, mais je savais pas que c'était un terroriste et j'ai rien à faire là dans le box ».
Le lundi 7 septembre, au début de la deuxième semaine d'audience, un policier vient raconter comment les enquêteurs ont remonté la trace des terroristes. Cet homme, c'est Christian Do, l'ancien patron de la section antiterroriste de la brigade criminelle. Que dit-il ?
Vraiment, il va raconter comment on travaille sur une enquête aussi hors norme. Le nombre de procès-verbaux considérables qu'il faut emmagasiner, qu'il y avait quasiment 8 personnes à temps plein juste pour l'archivage de la procédure, tellement c'était important en fait. Il y a une quantité, une somme d'informations considérable qui va être accumulée dès les premiers jours.
Et beaucoup d'appels aussi aux forces de l'ordre.
Bon, il y a des appels farfelus, il y a des appels de bonne foi qui ne servent à rien. Et puis il dit dans le lot, il y a toujours un appel qui vous sert. Et ce sera celui qui donnera l'indication de la planque d'Amédi Coulibaly à Gentilly, où on retrouvera une partie de son arsenal.
Le même jour, les images de la tuerie dans la rédaction de Charlie Hebdo sont projetées et elles sont commentées sobrement par ce commissaire.
C'est le premier moment, je dirais, très fort de ce procès. Les images du carnage, on a vu ses corps enchevêtrés. Et il a expliqué, vous voyez, alors là, on rentre dans la salle, là, c'était l'endroit, c'est là que Simon Fieschi a reçu des balles. Après, vous voyez, là, c'est le corps de Mustapha Oral, là, on est dans la salle. On avait une perception physique de ce carnage. Alors, avant, le président avait évidemment prévenu que les images qu'on allait regarder allaient être choquantes et plusieurs parties civiles sont sorties de la salle pour ne pas les regarder, justement.
Et le policier, cliniquement, donne des détails très précis sur le nombre de balles, à quelle distance les balles ont été tirées.
Il était très policier, très police judiciaire, voilà. C'est le corps de Charb, il est face contre terre, il a reçu tant de balles à tel endroit, à côté. Mais je pense qu'il a su trouver la distance pour décrire l'innommable avec ce souci d'éclairer la cour, parce que voilà, il sait qu'il est devant une cour d'assises et qu'il doit éclairer des magistrats professionnels qui devront prendre une décision.
La vidéo de la mort du policier Ahmed Merabé, abattu dans la rue boulevard Richard Lenoir dans le 11e arrondissement par shérif Kouachi, est également diffusée.
Là, ce qui frappe, en fait, c'est le son. Parce que le bruit des Kalachnikov, et là on l'entend, ça résonne dans toute la salle d'audience. Et on voit Ahmed Merabé qui est au sol, et shérif Kouachi qui s'approche de lui, on sent qu'il y a un échange, il lui dit « non mais t'as voulu me tuer, non chef c'est bon », il lève les bras, et il l'abat. C'est d'une violence extrême, parce que c'est le seul meurtre qu'on voit en direct en fait, contrairement au meurtre de Charlie Hebdo. Et d'ailleurs, au moment où ils témoigneront, les proches d'Ahmed Merabé exprimeront toute la douleur qui est la leur et l'indécence qu'ils ressentent à ce que cette vidéo ait été diffusée à l'époque et qu'elle continue à pouvoir être trouvée sur les réseaux sociaux. Et ça rajoute à leur souffrance de la perte de leurs proches.
Le mardi 8 septembre, Timothée Boutry, des rescapés de la tuerie à la rédaction de Charlie Hebdo, témoignent, notamment la dessinatrice Coco.
Alors Coco, elle a évidemment un rôle très important parce que c'est elle qui, malgré elle, va ouvrir la porte aux terroristes. En fait, elle était partie un petit peu plus tôt de la conférence de rédaction pour aller chercher sa fille à la crèche. Elle fumait une cigarette à l'extérieur et puis elle entend Coco, donc elle se retourne. Et c'était les frères Kouachi qui la menacent et qui la font monter, en fait. On veut Charb. Et là, elle comprend. Et donc, elle est sous la menace de la Kalachnikov. Elle dit, je savais que c'était une Kalachnikov parce que Charb dessinait très bien les armes, donc je savais que c'était ça. Et donc, elle monte les escaliers. En fait, elle arrive au premier étage et en fait, Charlie au deuxième. Et donc, elle essaye d'ouvrir la porte, elle n'y arrive pas. Et là, elle mime devant la scène, elle se met accroupie même à la barre. Elle dit Je suis désolée. Et elle dit, je pensais qu'ils allaient m'abattre parce que j'avais pas trouvé la bonne salle. Mais elle s'est relevée, ils sont montés d'un étage, elle a ouvert la porte Et ils sont rentrés, et puis c'est passé ce qui s'est passé. Elle s'est réfugiée dans une première salle, elle a entendu, elle l'a vécu à l'extérieur. Et une fois que ce sera fini, qu'ils seront repartis, elle va découvrir tous les corps de ses amis dans la salle de rédaction. Elle va venir en aide aux blessés. Et évidemment, elle reste très marquée par ce qu'elle a vécu.
Une autre rescapée de Charlie Hebdo témoigne, la chroniqueuse judiciaire Sigolène Vincent.
Elle va raconter, elle aussi, ce carnage. Elle était dans la salle de rédaction, elle a entendu du bruit, et elle dit « moi j'ai tout de suite su que c'était ça », parce qu'elle dit « Charlie Hebdo, les menaces », donc elle a tout de suite compris. Elle se lève, elle se cache derrière un petit muret, elle entend le bruit des balles, et elle dit « voilà, j'avais accepté de mourir ». Et elle se posait la question, est-ce que ce sera rapide, une balle dans la tête, est-ce que ce sera une balle dans le poumon, ce sera un petit peu plus long. Et voilà, elle avait intégré ça. Et finalement, elle ne va pas mourir, parce que Shérif Kouachi s'approche d'elle, il la braque avec son arme, et puis finalement, il remplace son arme par ses doigts, et il lui dit « on tue pas les femmes, on tue pas les femmes, il faut que tu lises le Coran, on tue pas les femmes ». Effectivement, ils ne vont pas la tuer. Les frères Kouachi vont partir, et après, on la voit sur la vidéo se lever, et on voit l'effroi sur son visage. En fait, elle se prend le visage dans les mains parce qu'elle découvre ce qui s'est passé. Voilà, elle a vécu en direct la mort de ses amis, et elle a cru qu'elle allait mourir. Et c'est vrai que cet après-midi, entre le témoignage de Coco et celui de Sigolène, je dirais qu'on a été plongé en apnée pendant toute une après-midi, on a eu la tête sous l'eau, on a été dans la salle de Charlie Hebdo pendant toute une après-midi au procès. Personne n'a pu en sortir indemne.
Le même jour, Zoé Lovresse, la cour d'assises commence à entendre ce que l'on a appelé les victimes oubliées. Ça veut dire quoi ce terme ?
C'est ces gens qui ont croisé le chemin des frères Kouachi avant leur massacre, avant leur toute première victime, et qui ont été traumatisés par les cagoules, les kalachnikovs, un tir peut-être dans le plafond du bureau, et qui finalement ont encore les répercussions de ce choc de se trouver avec ces hommes hyper armés dans leur bureau, dans leur quotidien.
Que racontent ces témoins ? Ils sont toujours traumatisés aujourd'hui ?
C'est des gens qui racontent être encore choqués, avoir encore les répercussions physiques, psychologiques de cette rencontre. C'est des gens qui ont passé quelques minutes cachés sous leur bureau avec la peur que les hommes en noir arrivent, leur tirent dessus. Ils ont peur de mourir et ils ont peur de ce qui va arriver ensuite parce qu'ils comprennent pour certains que ces hommes se dirigent vers Charlie Hebdo et qu'il va se passer quelque chose de dramatique.
Est-ce que vous avez un exemple ?
On a cette femme qui raconte qu'elle s'est cachée sous son bureau pendant quelques minutes et qu'elle a entendu les tirs. Elle raconte qu'elle souffre de troubles du sommeil, qu'elle a perdu l'appétit, que ses enfants l'ont tenue à bout de bras, qu'elle a été retravaillée très rapidement après ça et que le lendemain, à son travail, elle croise un jogger habillé en noir et elle est toujours traumatisée, elle croit que c'est un Kouachi et elle s'effondre, elle raconte qu'elle tombe par terre sur le trottoir et qu'elle est encore choquée en fait. Et c'est des gens qui ont bénéficié d'arrêt maladie et qui malheureusement, pour la plupart, ont été licenciés ou ont perdu leur travail suite à ces attentats. Leur vie familiale, leur vie professionnelle, pour beaucoup, a été complètement chamboulée.
Le jeudi 10 septembre au matin, Timothée Boutry, deux proches de dessinateurs de Charlie Hebdo assassinés, sont à la barre, l'épouse de Cabu et la fille d'Honoré. Cabu avait 76 ans, Honoré 73, et ils ont tous les deux consacré leur vie à leur passion, le dessin.
Cabu, en fait, il a très vite commencé à faire du dessin de presse, et il était très fier d'être journaliste. Sa femme a donné son numéro de carte de presse, elle était très fière de ça. Et Honoré, un peu moins connu, sa fille Hélène, très touchante, a raconté aussi son parcours, une famille modeste. Il a travaillé très tôt pour aider sa mère qui avait des difficultés financières. Mais sa passion, c'était le dessin. Et il n'a jamais lâché. Il est monté à Paris. Il a fait surtout du dessin économique. Et puis après, il a réussi à percer et à faire du dessin de presse. Et elle racontait, c'était touchant, que quand elle était petite, il n'arrêtait pas de faire des dessins d'animaux sur les nappes et qu'il lui faisait deviner quel animal c'était. Et qu'après, les serveurs, évidemment, voulaient garder les nappes.
Le même jour, Zoé Lovresse, la mémoire de Charb est évoquée. Stéphane Charbonnier, le directeur de la publication de Charlie Hebdo, ses parents et sa compagne lui rendent hommage, même si cette femme n'aime pas ce mot « compagne » pour décrire sa relation avec Charb.
Elle dit en fait avec douceur « c'est mon amoureux », mais Charb, il ne voulait pas dire que j'étais sa compagne, il ne voulait pas. Donc elle refuse et elle le dira sur les PV « j'ai refusé qu'on utilise le terme « compagne ». Et donc elle raconte son charme, les petits mots, les moments de joie, etc. La dernière soirée, la veille des attentats, cette soirée au resto, elle dira que c'était une soirée douce, joyeuse. Elle est très touchante.
À un moment, des dessins de Charb apparaissent sur les écrans de la cour d'assises spéciale. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de dessin ?
Il y a cette femme voilée, tout en noir, de la tête aux pieds, avec à peine les yeux qui dépassent, je crois, mais surtout les fesses jaunes et rebondies qui sortent de ce grand voile. Et dans la bulle, on lit « Chacun fait ce qui lui plaît », en référence à la chanson de Chagrin d'amour. Et en fait, ça fait marrer tout le monde dans la salle. Et dans le box des accusés, certains laissent échapper des rires. On a l'impression qu'ils découvrent un petit peu les dessins de Charb et de Charlie Hebdo.
Au fond, l'esprit de Charlie Hebdo, c'est ça. C'est refuser de renoncer à nos libertés, de renoncer au rire.
Ça fait du bien, parce que c'est une audience qui est très lourde et que c'est le plus bel hommage qu'on pouvait rendre à Charb. C'était de diffuser son art et d'entendre une salle d'assises qui juge les événements aussi difficiles à rire. Parce que le public a beaucoup ri. Enfin, on parle des accusés, c'est vrai, évidemment, c'était très marquant, mais dans la salle, les parties civiles, des avocats, des journalistes, ça nous a fait rire, vraiment. C'était le plus beau hommage qu'on pouvait lui rendre.
Merci Zoé Lovrez, Timothée Boutry. On vous retrouve demain pour la suite de ce podcast en deux épisodes. Avec Louise Colcombé, vous nous raconterez notamment les audiences consacrées aux prises d'otages de l'hypercachère et de l'imprimerie dans laquelle s'étaient retranchés les frères Kouachi. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast et n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.